Interview.
1 Air Divois pour l'interview, émission que vous écoutez sur les ondes FM en 107.5 ou sur le 101.7 à Luc en Divois. L'émission est aussi mise en écoute sur le site internet www.rdwa.fr. Au studio, aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Amanda Wild. Bonjour.
Bonjour.
Amanda, vous êtes ici pour nous parler d'une boutique que vous avez ouverte en ces débuts de mois, de mai, et qui s'intitule Yanka. Et vous proposez ainsi des souvenirs de voyage, en quelque sorte,
ouais, alors en fait...
et que vous proposez en vente. Et vous nous parlerez un peu de cette production et comment vous partez à cette recherche de coup de cœur même. Hein. Et pour cela, on peut peut-être présenter cette boutique qui s'est ouverte donc rue de l'Armellerie au numéro
26.
Et là, c'est encore juste en début de constitution. Et pourquoi d'abord ce titre Yanka et sa signification?
Alors Yanka, en fait, ça veut dire être en langage sioux. Donc c'est un nom qui pour moi avait du sens puisque mon entreprise est vraiment basée sur ma personnalité et le fait de faire des produits qui ont du sens et qui sont en rapport avec mes voyages et ma façon de vivre.
Ces voyages sont n'importe quelle partie du monde?
Oui, alors ça dépend en fait. L'idée c'est que je pars donc 2 ou 3 mois l'hiver et chaque année dans un pays différent pour aller chercher l'artisanat. Donc j'ai beaucoup voyagé en Asie. Mais dernièrement, je suis partie en Amérique du Sud. Donc là, j'étais au Mexique l'année dernière. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de couleurs dans le magasin. Et je vais un peu partout dans le monde. Je n'ai pas forcément de pays de préférence ou de prédilection. Ça va dépendre de l'envie du moment, quoi.
La couleur, c'est un maître mot aussi dans vos choix, de vos propositions, de ce que vous avez en boutique.
Oui, moi j'aime bien quand c'est coloré, surtout l'été. Donc c'est sûr que je vais toujours ramener des choses qui pètent un peu, quoi. Ouais. Assez original.
Et justement, cette couleur, on peut la retrouver plus dans les pays éloignés. Ici, on a plutôt une prédilection pour des tons monochromes, monotones. Là-bas, la couleur est de mise.
Oui, ça, c'est clairement une différence entre... toutes ces cultures, surtout Amérique du Sud ou asiatique et en Europe, on s'habille très souvent en noir, en gris, enfin, surtout l'hiver, c'est assez triste. Et alors que là-bas, on porte vraiment la couleur très fièrement, surtout dans les pays où il y a beaucoup encore d'autochtones ou de tribus.
Et vous êtes un petit peu penché sur cet aspect donc de la couleur. Est-ce qu'il y a une signification dans certains peuples ou certains pays que vous avez visités? Est-ce que la couleur est signe d'une certaine croyance en quelque sorte?
C'est une très bonne question. Je me suis jamais penché sur la question. Non, je ne sais pas du tout quoi.
Ce que je pourrais dire aussi, c'est que en pays occidental et notamment à Paris, on peut remarquer que beaucoup sont vêtus de gris, de noir, et ça du fait de la pollution. Je sais que par expérience, un col blanc en une journée à Paris devient gris. Est-ce que dans ces pays justement très éloignés d'Extrême-Orient ou d'Amérique du Sud, il y a peut-être moins de pollution? Est-ce que justement le transport est aussi développé que chez nous, dans ces pays où vous êtes?
Ah oui, il y a des pays qui sont extrêmement pollués. Quand j'étais à Cuba, l'air il est pratiquement irrespirable. Donc malheureusement, la pollution elle se retrouve vraiment de partout. Et au Népal, c'est pareil, il y a des jours où c'est tellement pollué qu'on ne voit même pas à une centaine de mètres. Enfin, je pense pas que ce soit un problème lié à ça.
Non.
Non, vraiment pas. Enfin, je le vois pas comme ça, en tout cas. Mais...
Bon, c'était juste une idée. Et alors, vous parlez de produits qui font sens pour vous. Alors, qu'est-ce qui est proposé dans votre magasin Yanka?
Et ben, en fait, pour l'artisanat que je vais chercher à l'étranger, je vais toujours chercher des petits artisans. Donc, moi, je cherche quelque chose qui est fait main. Je suis vraiment une amoureuse des métiers d'art. En fait, moi, j'ai fait une formation en métiers d'art. Et je suis toujours fascinée d'aller chercher des pièces qui sont artisanales et avec un savoir-faire ancestral. Quand j'étais en Indonésie, par exemple, j'ai trouvé des bijoux en argent qui sont faits en filigrane. Donc, c'est une technique qui est très ancienne. Et je trouve ça assez incroyable que ce soit encore fabriqué. C'est des techniques que nous, on a perdues en Europe, qu'on fabrique pratiquement plus. Et c'est pareil pour le Cambodge. J'étais donc au nord de la capitale, dans un petit village où on fabrique encore des objets en ciselé. Et en fait, c'est un savoir-faire qui date de l'époque angkorienne. Et malheureusement, pendant la guerre des Khmers Rouges, ils ont exterminé pratiquement tous les artistes intellectuels. Et en fait, il reste un tout petit noyau au nord de la capitale, où on fait encore ça. Mais je sais que s'ils n'arrivent pas à vendre leur production, c'est un savoir-faire qui va disparaître. Et moi, j'aime bien aller justement chercher ces petites choses qui continuent à survivre dans le reste du monde, quoi.
Vous avez pu discuter avec ces artisans que vous avez rencontrés? Ont-ils parlé un peu de leur expérience sur ce métier? Est-ce qu'il existe aussi encore des écoles de transmission pour leur activité?
Oui, alors il y a des associations en fait qui commencent justement à redécouvrir tous ces savoir-faire et il y a des écoles qui se forment, qui se montent où on forme justement des jeunes à tous ces métiers-là. Le problème, c'est après le débouché derrière qui n'est pas forcément évident. Alors maintenant, il y a des hôtels de luxe qui vont peut-être acheter ce genre d'objet ou des étrangers qui vont venir justement et acheter tous ces objets-là. Après, c'est pas évident à vendre pour eux dans leur pays. Et donc, c'est en train de se développer, mais c'est pas forcément très, très évident à sauvegarder.
Alors vous dites voyager à travers le monde, à ses recherches d'objets ou d'ustensiles peut-être aussi, ou de vêtements donc. Et en même temps vous liez l'aventure également et la montagne. Et pour cela vous êtes une passionnée de montagne, de grimpe. Et quand justement vous prenez une destination de certains pays, est-ce que vous tenez compte aussi de ce relief qu'on peut trouver chez certains?
Oui, alors le Népal, j'y suis clairement allée parce qu'il y a de la montagne. J'ai adoré d'ailleurs ce pays parce que forcément ça me renvoie à toutes les choses que j'aime. Mais après, c'est pas forcément quelque chose que je vais chercher. Parce qu'en fait, j'ai la chance dans le Diwa de pouvoir grimper des falaises incroyables. Enfin, je passe mon temps en montagne à bivouaquer. Donc en fait, j'ai déjà tout sur place ici. Donc quand je pars à l'étranger, ça peut être aussi pour aller justement à la mer et faire de la plongée, chose que je peux pas faire ici. Profiter de la plage, enfin c'est pas, oui ça va vraiment dépendre un peu de l'humeur, mais je vais pas forcément chercher la montagne. Mais c'est vrai qu'après tous mes dessins de montagne sont plutôt inspirés des montagnes d'ici, du Diwa, du Vercors ou dans les montagnes par là.
Vous vous présentez comme baroudeuse aussi, donc vous en avez vu du pays?
Oui, j'en ai vu, je commence à en avoir vu quelques-uns. Ouais.
Et qu'est-ce que vous en retenez? Il y a donc cette notion de commerce. Est-ce que vous avez cette optique du commerce équitable également? Que l'artisan soit très bien rémunéré sur son travail? Ça, c'est, vous y mettez un point d'honneur.
Oui, ça pour moi, c'est vraiment important. C'est-à-dire que je vais chercher à négocier le produit, mais en fait, je ne vais jamais le faire au détriment de l'artisan. C'est-à-dire que j'essaie déjà... Souvent, moi, je passe déjà plusieurs mois dans le pays pour justement connaître la culture, comprendre un peu comment ça fonctionne, le niveau de vie. Enfin, tout ça me permet, en fait, après, d'avoir une vue d'ensemble du pays et de savoir à quel prix je peux acheter les produits pour qu'en fait, tout le monde y trouve son compte. Et l'idée, c'est plutôt de reporter, en fait, le prix sur l'acheteur final plutôt que sur l'artisan qui déjà passe beaucoup de temps et d'énergie à fabriquer tout ça. Et je ne suis pas du tout là pour négocier des prix, en gros, quoi.
Vous avez visité ces ateliers, ce sont des petites entreprises où il y a un personnel attribué à chaque tâche de la fabrication d'un objet, ou alors un seul artisan confectionne l'ensemble de l'objet de A à Z?
Alors ça va dépendre des produits, mais souvent c'est des petits ateliers, ils sont quand même une dizaine ou une quinzaine, donc après chacun se répartit la tâche. Mais parfois, ça peut être une personne qui fait un objet de A à Z. Ben, par exemple, pour les objets qui viennent du Cambodge, en fait, dans un village, chaque maison, en fait, donc chaque famille fabrique ses objets. Et souvent, c'est les parents qui travaillent pendant que les grands-parents gardent les enfants sur leurs genoux à côté. Enfin, c'est un travail en famille. C'est assez rigolo, en fait. Le monde du travail n'est pas du tout conçu de la même manière que nous, quoi.
Justement, j'imagine que les protections sociales sont beaucoup moindres qu'en Occident.
Oui, c'est certain. Ouais.
Voilà. D'ailleurs, ce que j'aime bien faire, c'est sur YouTube, il y a souvent des vidéos qui se promènent justement sur ces ateliers artisanaux en Asie. On peut voir aussi leur manière de travailler, souvent assis, avec des outils très rudimentaires, mais avec un savoir-faire et un certain automatisme. C'est un peu aussi... une manière de travailler qui n'existe plus en France, j'imagine. Et il y a un savoir où seul l'humain peut créer à ce moment-là. La machine n'a pas forcément lieu d'être.
Ah oui, oui. Oui, clairement, pour les bijoux qui sont en filigrane, par exemple, c'est une technique qu'on ne peut absolument pas industrialiser. Et c'est certainement pour ça, d'ailleurs, qu'on ne fabrique plus au jour d'aujourd'hui en Europe. Voilà, et après, je pense à ça, mais il y a certainement plein d'objets qui ne sont pas forcément industrialisables. Ouais.
Et donc, on peut peut-être citer ce que l'on peut trouver dans la boutique Yanka, notamment des chapeaux du Mexique, mais aussi des vêtements et des objets, dont certains, on peut parler de fer blanchi.
Tout
ce qui est en métal ciselé.
Oui, ce qui vient du Cambodge. Ouais.
Oui. Vous avez visité ces ateliers. Comment se produit un des objets? Par exemple, il me semble qu'il y a une théière, je crois.
Il y a des petites boîtes en argent. La technique, en fait, ils partent simplement d'une feuille de cuivre. Donc à la base, c'est du cuivre. Une feuille de cuivre qui est emboutie pour la forme générale. Et une fois qu'ils ont obtenu donc la forme voulue, et après c'est ciselé par-dessus avec des tout petits outils pour faire justement tout ce qui est décor. Mais après ça, il faut aller voir sur mon blog, sur mon site internet. En fait, j'ai une partie blog où justement j'ai fait des reportages photos et j'explique, donc on voit les artisans travailler, j'explique leur façon de procéder et je trouve que c'est très intéressant justement pour que les gens puissent savoir toute l'histoire qu'il y a derrière cet objet, quoi.
Et ça, c'est une activité familiale, ancestrale, j'imagine aussi, qui se transmet de père en fils ou de mère en fille aussi.
Oui, 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 complètement. Travailler en famille, c'est assez beau de les voir travailler d'ailleurs. Ils se transmettent le savoir, en fait, depuis tout petit, je pense, sans même s'en rendre compte, puisque les enfants, en fait, ils travaillent devant chez eux, par terre, c'est vraiment rudimentaire. Mais du coup, les enfants sont là depuis tout petit, ils voient leurs parents travailler, et en fait, sans s'en rendre compte, ils apprennent les gestes et les façons de faire, inconsciemment.
Et c'est une activité qui leur permet de vivre au moins dignement, ou alors il y a aussi beaucoup de difficultés?
Dignement, je ne sais pas. Après, ça dépend.
Je veux dire, leur activité leur permet de pouvoir vivre.
Ah, ils en vivent, oui, oui, complètement. Ils en vivent. Après, ils n'ont pas les mêmes besoins que nous. Ça reste le Cambodge, donc ça reste un pays sous-développé. Le niveau de vie n'est pas comparable au nôtre, mais après, ils en vivent. Enfin, ils vivent de cette activité-là. Ouais.
Et avant tout, c'est aussi des objets très usités dans certains pays. Là, c'est la Thaïlande. Les objets qui sont fabriqués sont disons, de valeur commune pour des habitants locaux qui ont besoin d'une boîte ou d'une théière. Ça fonctionne comme ça. Il n'y a pas, je veux dire, un commerce industriel ou des chaînes qui viennent de l'étranger et qui proposent des productions beaucoup moins chères. Est-ce qu'il y a une concurrence qui existe contre cet artisanat?
Contre cet artisanat, non. Non, non, parce que c'est vraiment spécifique à chaque pays, donc je vois pas lieu d'avoir la concurrence. Et effectivement, souvent, à la base, c'est des objets qui sont créés pour les locaux, ils l'utilisent dans leur quotidien, donc ils en ont besoin, en fait. Ouais.
Comment vous est venue cette idée, alors, d'ouvrir cette boutique Yanka, notamment votre expérience de voyage à travers le monde, et puis de faire connaître aussi ces rencontres que vous avez faites au cours de ces voyages. Quelle est la philosophie de ce que vous proposez dans cette boutique?
Je dirais qu'à la base, en fait, je suis partie, enfin, j'ai voyagé une bonne partie de ma vie et je suis partie à 5 ans faire ce qu'on appelle un tour du monde. Bon, au final, je suis restée en Asie parce que j'ai tellement aimé l'Asie que je suis restée un an en Asie. Et en fait, voilà, quand je suis rentrée, j'avais vraiment envie, en fait, de vivre, enfin, de pouvoir vivre, en fait, d'une activité qui me permette de continuer à voyager. Et en fait, j'ai rencontré énormément d'artisans pendant cette année de voyage. J'ai rencontré beaucoup de gens, beaucoup d'artisanat. Comme je disais, moi, je suis bijoutière de métier. Donc vraiment, c'est quelque chose qui m'a toujours intriguée. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas, en fait, pourquoi pas créer l'entreprise qui me permette justement de mettre en avant tous ces artisans dans le monde, de les valoriser et de leur vendre, de leur vendre ici. Je pense que ça intéresse beaucoup de gens aussi d'avoir des objets un peu chinés partout dans le monde. Et voilà, je crois que c'est un peu comme ça que tout a débuté.
Et donc, une fois que vous avez, en quelque sorte, amassé des productions, comment se chemine cette production jusqu'à Adi pour cette boutique ?
Alors, la plupart du temps, je le ramène dans mon sac à dos. Donc, c'est assez drôle parce que quand je suis rentrée... En fait, quand j'étais au Mexique, dernièrement, j'ai craqué sur des hamacs magnifiques. Et bon, le problème, c'est que du coup, ça me faisait un carton très encombrant. Donc, pour voyager en mode sac à dos, c'était un peu compliqué. C'était assez drôle. Enfin, ça a donné des situations assez rigolotes, quoi. Mais donc là, ouais, je me suis dit que c'était peut-être la dernière fois que j'allais faire ce... Enfin, en tout cas, prendre des objets aussi encombrants avec moi parce que c'était quand même pas évident. Mais après, ça m'arrive aussi de faire du coup, d'aller dans le pays, de repérer des objets. Et après, je travaille avec un transporteur qui est sur Valence. Et là, après, je le fais venir par fret aérien.
En quelque sorte, chaque objet a son histoire. Ou vous leur proposez aux personnes qui viennent l'histoire de cet objet.
Oui, il ne faut pas hésiter à me demander. Ça, c'est sûr que je peux vous expliquer l'histoire du produit. Et puis, comme je vous dis, sur mon site internet, ça, j'ai un blog où je raconte bien aussi tout ça. Et il faut savoir qu'aussi dans la boutique, en fait, il y a deux actifs. Enfin, en fait, il y a les choses que je ramène de mes voyages, que je vais chiner. Mais il y a aussi tout ce qui est donc, dessin, illustration en noir et blanc. Où ça, c'est mon travail. C'est-à-dire que moi, je dessine soit sur l'inspiration des montagnes ici, soit sur mes voyages. Et après, je le fais donc imprimer sur textile à Montélimar. Et pour toutes les tasses en céramique, j'ai travaillé avec Catherine de Souza, qui a tourné les tasses ici et sur lesquelles on a mis mes dessins.
Donc vous êtes dessinatrice aussi, vous avez suivi des cours dans une école ou alors c'est une passion, le dessin et
je pense à... Oui, pardon, je pense que ça a toujours été, parce qu'en fait moi j'ai fait l'école Houle à Paris, donc là j'ai déjà pas mal appris à dessiner. Et après, en fait, en cours du soir, j'ai fait 3 ans aux Beaux-Arts. J'ai fait beaucoup de portraits, de modèles vivants. Enfin, j'ai toujours dessiné, en fait, depuis toujours, quoi.
Je reviens sur l'Asie. Vous dites être resté un an en Asie. Pour vous, qu'est-ce qui différencie le pays occidentaux, l'Europe, la France et l'Asie? Quelle est l'impression que vous avez une fois que vous êtes au milieu d'un paysage ou être simplement les pieds dans l'Asie? Il y a une différence notable?
Oui, je sais pas. Pour moi, l'Asie, ça me fascine vraiment. Pour moi, il y a quelque chose de fascinant en Asie. C'est-à-dire que c'est une espèce de bordel organisé, enfin, je ne sais pas comment le dire autrement, mais on a l'impression qu'il n'y a rien, enfin, tout est fait n'importe comment, mais en même temps tout fonctionne, parce qu'il y a beaucoup de respect aussi. Et puis il y a quelque chose que j'aime beaucoup en Asie, c'est le fait que le mental ne prend pas le dessus. En fait, dans notre société occidentale, on est beaucoup dans le mental, dans le vouloir, alors qu'en Asie, on est beaucoup dans le lâcher prise et dans le ressenti, et c'est deux modes de fonctionnement complètement différents. Et je trouve que c'est bien de voyager une partie de l'année pour équilibrer justement tout ça.
Vous parlez d'un bordel organisé, on peut parler d'une intelligence d'organisation aussi,
ouais.
Peut-être abstraite.
Oui, je pense, ouais, complètement. Ouais. Je ne sais pas si c'est fluide, en fait, ça fonctionne. Nous, on aurait tendance à penser qu'il faut cadrer les choses pour qu'elles fonctionnent, alors qu'en fait, en les laissant simplement fonctionner, c'est fluide et ça marche, quoi.
Alors, vous avez ouvert Yanka, que vous définissez comme un concept store déco et lifestyle. Alors, c'est un terme anglo-saxon. C'est aussi une émanation, ce qui existe déjà sur d'autres pays, qui vous ont donné cette idée de boutique.
Oui, alors on trouve beaucoup de concept stores un peu partout dans le monde, dans les capitales, surtout dans le monde. C'est quelque chose qui se développe. Après, le côté anglophone, c'est parce que c'est vrai que quand je voyage, je parle tout le temps en anglais, donc les mots me viennent souvent plus facilement en anglais. Et voilà, puis je trouve que c'est un mot qui même est assez utilisé maintenant dans la langue française et qui veut dire qu'il regroupe plusieurs choses, quoi.
Vous aurez l'occasion de repartir, j'imagine, de nouveau à la recherche d'autres productions. Et, ou alors, est-ce que vous maintenez aussi un réseau avec les personnes avec qui vous travaillez déjà, de manière à pouvoir développer peut-être le choix dans la boutique ?
Oui, alors j'ai gardé contact avec toutes les personnes avec qui j'ai travaillé jusqu'à maintenant. J'ai pas encore décidé, peut-être que sur certains produits je vais peut-être en faire revenir. Après l'idée c'est aussi d'avoir quelque chose de différent chaque année, c'est-à-dire que vu que je pars en général je pars 2-3 mois l'hiver, l'idée c'est que quand je reviens au printemps j'ai aussi quelque chose de complètement nouveau pour aussi offrir quelque chose de nouveau aux personnes qui sont ici. Mais après j'ai certains produits comme ceux qui viennent d'Indonésie qui plaisent énormément, donc je vais très certainement faire du coup, un réassort sur ces produits-là, ouais.
Là, vous parlez d'Extrême-Orient, du Mexique, d'autres pays en prévision aussi que vous aurez envie d'aller voir.
Ouais, alors, je suis toujours pas décidée.
Qu'est-ce qui définit votre choix dans ces objets, l'aspect esthétique, l'aspect du travail que cela représente?
Oui, alors il y a vraiment... Je pense que la première chose, c'est l'esthétique. En fait, quand je vois un objet, de toute manière, je sais plus ou moins comment les fabriquer. Donc, je sais déjà le travail que ça représente. Donc, c'est clair que quand il y a beaucoup de travail, ça... Bah oui, ça va vraiment m'impressionner. L'esthétique et aussi, des fois, c'est juste la rencontre. Quand j'étais en Patagonie chilienne, en fait, j'étais sur un marché et j'ai rencontré un petit artisan qui va chercher du bois au fin fond de la Patagonie et qui le coupe et qui fait des boucles d'oreilles avec. Et en fait, j'ai trouvé ça juste génial parce que c'est la seule personne au monde à faire ça. Et le mec, il est au fin fond de la Pampa, de la Patagonie. Et voilà, il fabrique ses petits bijoux et de temps en temps, il les vend au marché. Et je crois que la rencontre était vraiment trop belle pour pas lui en acheter une bonne quantité, quoi.
Ça vous arrive justement d'aller vous visiter le lieu où se pratique le travail de ces artisans? Vous parlez de ce fabricant de bijoux, est-ce que vous l'avez suivi dans son activité de création un petit peu pour connaître un peu dans votre quête d'exploratrice en quelque sorte?
Alors lui, je ne suis pas allée dans son atelier, mais par contre ça m'est arrivé... Ça m'est arrivé, en Indonésie, par exemple, je suis allée dans les ateliers et j'ai même travaillé avec eux. C'est rigolo parce qu'en fait, quand je leur dis que je suis bijoutière, ils sont assez curieux. Donc souvent, j'ai de la chance de pouvoir mettre à l'établi, d'utiliser leurs outils, de voir les outils qu'ils ont pour travailler. Et voilà, en fait, c'est complètement différent de ce qu'on a, nous, en Europe. C'est assez rigolo.
Et vous avez pu échanger aussi vos propres pratiques avec eux sur certaines techniques?
Oui, ça m'arrive parce que des fois on discute sur, par exemple, les bijoux en argent, la façon dont ils les polissent. C'est tout fait avec des graines de tamarin. Donc en fait, c'est uniquement des choses qui sont naturelles. Nous, on utilise des pâtes à polir qui sont très abrasives. Enfin, on n'est pas du tout dans le même
type de... Et plutôt chimique,
oui. Et quand je vois justement le résultat qu'ils arrivent à obtenir en utilisant une graine de tamarin, je me dis qu'on devrait peut-être se pencher sur la question, quoi. Vraiment.
Vous avez suivi une formation à l'école Boulle. Mmh. Vous étiez destiné déjà dans la bijouterie à ce moment-là ou l'école Boulle est aussi une plateforme qui peut amener à faire un choix plus ample de pratiques artisanales?
Alors, quand je suis arrivée à l'école Boulle, j'étais déjà en bijouterie parce que moi, j'avais déjà fait 4 ans d'études en bijouterie à Valence. Et après, je suis partie à l'école Boulle vraiment pour me former à tout ce qui est création, design, mais en option bijouterie déjà.
La montagne, c'est aussi une passion auquel vous tenez. Hein. Donc j'imagine toutes les périodes hivernales de France, vous les passez plutôt ailleurs pour l'escalade?
Ouais, d'ailleurs c'est en projet, je pense que mon prochain voyage, il sera vraiment... je pense que la destination va être choisie en fonction des falaises à grimper, quoi, clairement. Oui, mais après l'hiver, il m'arrive aussi d'aller au ski parce que j'adore aussi skier, donc... Ouais, c'est...
Quelle est l'impression, en étant en escalade, de se retrouver en aplomb d'un vide Quel est ce sentiment de ne pas avoir les pieds sur terre?
C'est grisant, hein. L'escalade, c'est vraiment grisant. Il y a cette sensation de liberté. Et ce que j'aime vraiment dans la grimpe, c'est que c'est un sport qui est très cérébral, en fait, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Parce que voilà, il faut vraiment réfléchir à la façon dont on va grimper, où est-ce qu'on va poser, comment on va se positionner. Et c'est un sport qui demande tellement de concentration. En fait, on est vraiment dans l'instant présent. On ne peut pas être autrement que dans l'instant présent. Et ça permet de centrer les choses. Et du coup, on ne peut pas penser à autre chose qu'on est vraiment focus là-dessus. Et du coup, ça donne un sentiment de plénitude, de liberté. Ouais.
Vous vivez vraiment l'instant. Il en va de sa vie.
Oui, ah oui. Oui, il faut faire attention quand même. Faut pas déconner. Ouais.
Oui. On peut parler des ouvertures de la boutique Yanka?
Oui. Alors, donc là, je suis ouverte du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 15h à 19h. Et les jours de marché, donc le samedi et mercredi, j'ouvre à 9h. Et le samedi, c'est en non-stop, oui.
Et puis, un site internet, hein? Yanka, je crois, tout court.
Oui, c'est www.yanka-by-amanda.com.
Lors de tous ces voyages, on peut ignorer aussi parfois l'ambiance musicale qui est dans ces rues.
Ah oui, ça c'est... Oui.
Et est-ce qu'il n'y a pas un air que vous auriez envie de partager pour finir l'émission?
Un air...
Un air de ces pays, de ce que vous avez pu entendre
Si, j'en ai une du Népal qui est assez rigolote.
Ah ben, ouais. On peut en parler alors. Oui. Le Népal, pour vous, c'est ce souvenir musical?
Oui, c'est un super souvenir parce qu'en fait, quand j'étais au Népal, j'ai eu la chance d'aller dans le Mustang. Donc, c'est vraiment une enclave tibétaine au milieu du Népal. C'est un endroit qui est fantastique. Je pense que c'est un des plus bels endroits au monde où j'ai été. Vraiment, c'est une partie de mon voyage qui m'a énormément marquée. Et en fait, le soir, quand on mangeait avec les locaux, ils étaient tout en train de se marrer en regardant une vidéo. Et en fait, ils m'ont montré, donc c'est un clip, parce que là-bas, donc il y a beaucoup de... Sur les chansons, il y a beaucoup de clips vidéo. Et donc, il avait été tourné au Mustang, c'est pour ça qu'ils le regardaient. Et c'est toujours des histoires d'amour impossibles. Enfin voilà, comme beaucoup dans les pays en développement, parce que souvent, c'est des mariages arrangés, donc ça finit souvent mal. Mais du coup, le clip est magnifique. Ça se passe au Mustang, on a vraiment des vues incroyables. Et la chanson est très belle. Enfin, c'est vraiment typiquement népalais, quoi.
Eh bien, nous quittons avec cette chanson. Et en tout cas, Amanda Wild, je vous remercie d'être venue sur Air Diva pour nous parler donc de l'ouverture de votre boutique Yanka. Au 26 rue de l'Armellerie, à Die. Au revoir.
Merci, au revoir.
Bansu aja man ka kura sunchheu bhane timi juni juni samma merai hunchheu bhane timi
bansu aja man ka kura छो भने तिमी जुनी जुनी समा मेरै हुन्छौ भने तिमी
जिन्दगी को कुनै मोडमा रुनु पर्यो भने आफ्नै सम्झी परेली छुन्छौ भने तिमी आफ्नै सम्झी परेली छुन्छौ भने तिमी भन्छु आज मन का कुरा भए हाँस्न सजिलो हुन्छ मलाई भविष्य सम्झिएर बाँच्न सजिलो हुन्छ मलाई
तिम्रो साथमा भए हाँस्न
खुशी सबै नै तिमलाई दिन्छु मेरो हुन्छौ भने तिमी ती हातले यी परेली छुन्छौ भने तिमी आफ्नै सम्झि परेली छुन्छौ भने तिमी
भन्छु आज मनका कुरा
सुन्छौ भने तिमी छैन जीवनमा ठुलो कुरा तिमी भए सबै पुरा हुँदैनन् केही अधुरा
सम्पिदिन्छु तिमीलाई जिन्दगी नै मेरो हुन्छौ भने तिमी ती हातले परेली छुन्छौ भने तिमी
हो आफ्नै सम्झि परेली छुन्छौ भने तिमी
भन्छु आज मनका कुरा सुन्छौ भने तिमी
जुनी जुनी सम्म मेरा हुन्छौ भने तिमी